des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
D'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le rapport de François Legault à la question autochtone semble avoir évolué. Du moins, c'est ce que Geneviève Lajoie a conclu après la visite du chef caquiste à une communauté Abénaki près d'Amos en Abitibi, notamment sur la question des langues traditionnelles. Au reste, les tensions entre l'équipe de la CAQ et l'autobus des médias semblent s'être apaisées aujourd'hui. On nous a au moins accordé un point de presse un peu plus long et Geneviève nous en souligne les points saillants, dont une certaine inquiétude du chef caquiste pour les convois qui se rendront demain samedi dans l'Assomption, sa circonscription, afin de dire « dehors la CAQ ». Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal que je rejoins à Québec. Moi, je suis à Lebel sur Quévillon, imagine-toi donc. Bien au nord, on a failli ne pas pouvoir se parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux cellulaires. Alors, tu veux nous faire un bilan en deux temps, Rémi? On commence par l'aspect un peu plus négatif. Tu nous feras un petit côté plus positif. Explique-nous.
Bien, en fait, c'est que je vais te parler dès maintenant des gaffes et quand même, pour faire contrepoids, de... pour chacun des partis, une bonne idée qu'ils ont présentée, et il y en a certaines qui sont passées sous silence.
Parfait. Allons-y. Commençons par le Parti québécois.
Ben c'est ça. C'est que le Parti québécois, malheureusement pour lui, alors qu'on arrive dans les derniers milles, le parti apprend qu'il a un candidat anti-musulman, donc notre collègue Nicolas Lachance, qui a révélé que Pierre Vanier, le candidat dans Rousseau,
oui.
A eu des propos inacceptables sur les réseaux sociaux en 2016. En janvier 2016, il a publié une image de femme voilée, notamment, et il écrit, comme le disait une de mes collègues, « Elle manque un 15 minutes de pas cuit dans la caboche. »
Oui, oui, oui.
Il a écrit aussi pour les personnes qui croient les musulmans au Québec quand ils disent qu'ils sont venus ici pour faire une nouvelle vie. L'islam, c'est l'islam partout et le but, c'est de dominer, écraser les infidèles. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon a pris connaissance de ça alors qu'il débarquait du bateau Effa Gautier, imagine-toi donc. Il était en colère parce qu'il comprenait pas qu'ils apprennent ça aujourd'hui, hein, alors que M. Vanier est candidat dans une circonscription qui n'est pas banale, là, c'est une ancienne circonscription que le PQ
de François Legault
occupé avec François Legault. C'est ça. Et donc, il a annoncé immédiatement qu'il suspendait la campagne de M. Vanier et là, reste à déterminer s'il sera complètement sorti de l'équipe. Moi, je pense que oui, je pense pas qu'il peut conserver dans son équipe quelqu'un qui a eu ce genre de propos. Alors, c'est un peu à suivre, mais écoute, au fil de la campagne, des fois, quand survenait une gaffe comme ça, on se disait, toi et moi, mon Dieu, on n'aurait pas pu prévoir.
Ouais.
Alors, un petit rappel rapidement, François Legault, évidemment, qui a dit « immigration et violence » ensemble, qui a dit « tout est réglé à Joliette ».
Ça, c'est deux gaffes importantes, hein?
Exactement, il a dû s'excuser dans ces deux cas-là. Alors ça, je dirais les cas les plus importants pour M. Legault lui-même, PSPP. Le seul, je dirais, écueil que j'avais vu là, majeur, ben, c'est quand il a manqué de tact lors du décès de la reine en se plaignant qu'on ait 1000 drapeaux en berne.
Oui.
Alors ça, ça avait été évidemment...
Lui-même était revenu sur ses propos. Hein?
Oui, exact. Dominique Anglade, ben, c'est en plusieurs temps, il y a eu évidemment les manques de candidats, le fait qu'elle soit obligée de maintenir des candidats qui avaient des positions contraires, notamment sur le troisième lien, et la gaffe principale, je pense, c'est une erreur de 16 milliards dans le cadre financier, ça fait pas très sérieux. Éric Duhaime, pour lui, le pire moment, je dirais, c'est qu'on ait su publiquement qu'il n'avait pas payé ses taxes foncières.
C'est notre bureau d'enquête qui a révélé ça.
Oui, exactement. Et sur un des deux immeubles, c'était depuis plus de 2 ans. Alors, tu sais, c'était donc assez spectaculaire. Et Gabriel Nadeau-Dubois, lui, bon, il y avait eu le fait qu'il ait dû reculer sur les terres agricoles concernant l'impôt sur les successions et la richesse là. L'autre élément, ben évidemment, ça a été sa candidate qui a admis avoir volé un tract du Parti québécois là, dans une boîte aux lettres. Alors c'est sûr qu'on s'en sort pas à chaque campagne, il y a ce genre de mauvais moment.
Toujours.
Et là, on en a eu pour tous les partis.
Maintenant, pour faire contrepoids, tu veux nous parler d'une bonne idée dans chaque parti, les bonnes idées finalement de la campagne, peut-être certaines qui sont passées un peu sous le radar.
Exactement, parce que c'est normal hein, que ces histoires-là plus spectaculaires dont on vient de parler fassent davantage les manchettes, les controverses, ces choses-là. Mais bien entendu, dans le cadre de la campagne, les partis, et moi je pense que les électeurs sont chanceux, ils ont toutes qu'une offre politique, mais ils sont 5 partis. Les partis quand même ont présenté des programmes complets, beaucoup d'engagement. Et donc c'est important qu'on en parle. Dans le cas de Québec solidaire, moi... il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'allocation de 15 000 $ par année pour les proches aidants, parce que je considère, puis je pense que c'est généralement admis, que quelqu'un, par exemple, une personne qui est elle-même assez âgée,
oui,
et qui doit s'occuper de son conjoint ou de sa conjointe qui est très malade, elle voit sa vie comme complètement basculée. C'est extrêmement épuisant. C'est épuisant aussi émotivement. Donc, tu peux pas comme penser que cette personne-là va continuer sa vie ou une vie active et pouvoir se débrouiller aussi pour avoir de bons revenus. Donc, je pense que donner un coup de pouce en assurant au moins comme un minimum à ces personnes-là, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de Québec solidaire. Si j'avais, par exemple, à construire un programme en choisissant ce que j'aime le mieux, là...
Oui, c'est ça. Tu pourrais faire un programme idéal.
Mais peut-être qu'ils ne balanceraient pas sur le plan des finances, là, il y a ça.
Ah, ben là, on voit bien que les partis s'en foutent, dans le fond.
Du côté du Parti québécois, moi, je pense que c'est leur allocation pouvoir d'achat qui est la plus à propos, la mieux ciblée, qui a le moins d'impact à long terme sur les finances publiques. C'est bon que le PQ ne promette pas de baisse d'impôts, mais 1 200 $ une fois pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ Ceux, donc, pour qui l'inflation fait en sorte qu'ils sont vraiment obligés de faire des choix difficiles. Tu sais, il y a des gens qui ont plus de revenus, ils vont sacrifier, par exemple, une portion de loisirs, ou en tout cas, mais tu sais, ça rentre un peu moins directement dans les besoins essentiels. Alors moi, ça, je pense que c'est à propos. Et 750 $ pour ceux qui gagnent moins de 80 000 $ Moi, j'aime beaucoup cette proposition-là du Parti québécois.
Ouais.
Pour ce qui est du Parti libéral, la gratuité des programmes pédagogiques. Et je te dirais, Antoine, que moi, particulièrement dans le deuxième débat des chefs,
oui,
là où j'ai trouvé Dominique Anglade très bonne, ça a été sur le volet éducation.
Ah oui.
Et à ce propos-là, elle avait bien expliqué que le fait qu'il y ait des frais importants, là, des centaines de dollars, par exemple, pour inscrire un enfant dans un programme pédagogique, ça peut empêcher des parents de faire ce choix-là. Et ça a un impact après ça sur la motivation du jeune à l'école. Et donc, les jeunes se retrouvent à pas avoir la même chance d'avoir la même motivation, si tu veux, et les aider sur le plan académique. Alors moi, je trouvais qu'elle avait marqué des points là-dessus, et ça, c'est un élément que je conserverais si je faisais un programme tout étoile. dans le cas du Parti conservateur.
Ça serait une bonne idée, quand même.
Oui,
dans
quand
une
même.
Page du journal, le programme tout étoile.
Comme le match des étoiles.
C'est ça.
Dans le cas du Parti conservateur, ça, je t'ai dit souvent, là, je me répète un peu, l'idée de cesser de taxer la vente de biens usagés, ça, j'adore ça. Et sinon, je me permets une autre, c'est que Éric Duhaime a raison, à mon avis, de demander un front commun de tous les partis pour réclamer les pouvoirs en matière d'immigration. C'est pas une garantie que le fédéral va davantage dire oui
non.
que si c'est juste le parti au pouvoir, mais au moins, c'est encore plus, je trouve, représentatif de l'ensemble des Québécois quand tu dis tous les partis ensemble se tendent la main et réclament d'une seule voix. Mais bon, écoute, j'ai quand même un peu j'ai peu d'espoir parce que le PQ là a pas mal levé le nez là-dessus lorsqu'on leur a posé la question. Et en terminant pour la CAQ,
oui.
J'ai trouvé que la CAQ a pas soumis beaucoup de nouvelles idées là. Franchement, là, on voit avec le slogan continuons, mais à tout le moins l'idée, ben la volonté de mettre 2 milliards de dollars de plus pour les écoles vétustes dans les prochaines années, ça m'apparaît essentiel. C'est indispensable. On n'a pas le choix. Il y a trop d'écoles qui tombent en décrépitude. On l'a déjà dit d'ailleurs, même qu'il y a plus de 50% des écoles qui sont pas en bon état. Donc,
c'est terrible qu'on en soit rendu là.
Ben oui, exactement.
Alors, mais c'est comme plusieurs de nos infrastructures, Rémi, c'est qu'ils ont toutes été construites en même temps. Ou à peu près. Oui. Donc, ils viennent, leur fin de vie utile arrive tout en même temps. Je pense que c'est un de nos problèmes, ça, au Québec.
Oui, et pendant quelques décennies, on n'a pas suffisamment réinvesti et voilà. Attendu, dans le fond, justement, que tout tombe en ruine. Et puis là, ben, tu sais, les routes... Honnêtement, sérieux, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que justement, tu as fait beaucoup de routes. Moi, j'ai fait de la route aussi au cours des dernières semaines.
Ben oui.
Les week-ends pour aller dans des circonscriptions. Et tu sais, on a fait grand état là, des routes,
oui.
Et on a fait des reportages. J'ai quand même trouvé qu'il y avait de l'amélioration. Tu sais, le gouvernement caquiste s'est vanté à quelques reprises de mettre des sommes historiques, le record, pour retaper des routes. Il y a encore des portions, moi, l'autoroute 20, là, dans le secteur du Mont-Saint-Hilaire, puis là, je trouve toujours ça aberrant de voir que on dirait que cette portion-là toujours dans un état ridicule là, année après année. Mais de façon générale, j'ai senti qu'il y avait eu de l'amélioration. Je ne sais pas si tu penses la même chose.
Oui, j'irais dans le même sens. Quoique là, on vient de faire une portion entre Sainte-Terre et Lebel sur Quévillon, puis on s'est fait brasser solide. Vous allez l'entendre d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission où j'ai fait une entrevue avec Geneviève Lajoie dans l'autobus où on n'avait pas de réseau. Puis ça brassait pas mal. On entend parfois... l'autobus brassé, mais c'est vrai généralement, Rémi, que moi aussi, je trouve que ça s'est amélioré.
Et bien, il faut évidemment continuer. Pour ce qui est des écoles, là, c'est sûr que c'est obligatoire.
Très bien. Merci infiniment, Rémi. On se reparle lundi. Ça sera une journée de vote, donc on va faire attention. On va inciter les gens à aller voter. Puis, on va trouver le bon ton. Hein?
Ben oui, ben on pourra se rappeler des vieux souvenirs de la soirée électorale, peut-être.
Ah, exactement comme on a fait pour les débats. Parfait, on fait notre liste puis on s'en parle lundi. Merci beaucoup.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne bien assis à l'arrière du conducteur.
Bonjour, Geneviève Lajoie.
Bonjour, Antoine.
Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Et là, actuellement, on se parle à quelque part entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon. On est, je le rappelle, sur la caravane caquiste.
Oui, on se parle entre nous, hein, Antoine,
oui.
Parce que en ce moment, il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur.
Exactement.
Ni par téléphone, ni par courriel et rien. Donc, en ce moment, on est vraiment isolés sur la route.
Et ça brasse.
Oui, exactement.
On le dit en même temps. Et ce matin, donc, rencontre de François Legault avec des Autochtones à l'occasion de la journée Vérité et réconciliation.
Exactement. Et M. Legault en a profité pour aller sur le site de Saint-Marc-de-Figuery, qui est en fait le site d'un ancien pensionnat autochtone,
oui.
Où il y aurait eu, de ce qu'on comprend, à peu près 200 enfants qui étaient arrachés à leur famille et qui étaient envoyés là chaque année. C'est pas rien. Et puis ce matin, donc, il a parlé avec plusieurs personnes, d'anciens pensionnaires qui étaient là, qui l'attendaient, dont un monsieur qui s'appelait Édouard Kishtabish, qui nous a raconté justement comment c'était très difficile, ce qu'il a vécu, des choses qu'il n'oubliera jamais, finalement. Et pour le citer, il dit que... Hein? Oui. Il en a mangé des volets. C'est pas rien, là, ce qu'a dit au premier ministre. Le premier ministre avait quand même l'air assez ému.
Oui, le premier ministre est toujours un peu en rattrapage sur cette question-là. C'est pas une question... C'est un peu comme l'environnement. C'est pas une question naturelle pour lui, mettons. Pas comme l'économie ou les affaires. Hein?
Non, exactement. Mais là,
il avait l'air vraiment empathique, effectivement.
Oui, et puis donc, il en a profité justement pour annoncer quelques minutes plus tard là, que le sort des langues autochtones le préoccupait beaucoup parce que ce monsieur lui a justement dit que lui parle algonquin.
Oui.
Mais que ses enfants, à lui, le parlent très mal. Mmh. Et comment justement réussir à que ces langues-là se perpétuent?
Oui.
Eh bien, François Legault a annoncé son intention de déposer une loi, un peu comme la loi 101 le fait pour le français. Donc, une loi qui permettrait justement de protéger les langues autochtones. De quelle façon, comment ça se fera? Ça, c'est encore une question là, dont on ne sait pas la réponse, puisque là, M. Legault a dit que ce n'était pas lui qui voulait décider lui-même, mais qu'il devait consulter donc les peuples autochtones. Et comme il l'a si bien rappelé, il y a 55
oui.
communautés différentes. Et donc, ça ne se fera pas, donc, j'imagine, demain matin. Non, là.
J'ai trouvé l'aveu quand même intéressant. Aux dernières élections, il avait dit... Moi, je veux une paix des braves avec les 11 nations autochtones. Mm. Or, il dit, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas juste parler en termes de 11 nations, même s'il y a effectivement 11 nations. Il y a 55 entités ou communautés, comme
exactement.
Tu dis.
Exactement. Et il a précisé que jusqu'à maintenant, il a signé 5 pactes sur 55. Et donc, il y a du chemin à faire encore pour les 4 ouais. années. Si jamais il est réélu le 3 octobre, là, il y a encore du chemin à faire là, dans ce dossier-là. Et peut-être un fait intéressant aussi, il a même parlé de l'école, hein, des écoles sur les communautés autochtones. Est-ce qu'on pourrait enseigner justement les langues traditionnelles
ouais.
à l'école? De quelle façon, on ne sait pas trop, mais il s'est montré aussi ouvert à ça, là, ce qui est assez nouveau aussi.
Oui. Donc, passage important ce matin près d'Amos. Puis ensuite, je tiens à le souligner, il nous a donné un point de presse un petit peu plus long que d'habitude. Explique-nous pourquoi.
Oui, une vingtaine de minutes, si je ne m'abuse, tout à l'heure, d'échange avec les journalistes. Je t'avoue franchement que, tu sais, bon, dans les derniers jours, on a eu moins d'accès au premier ministre, notamment hier, une seule mêlée de presse qui a duré peut-être 18 minutes. Dont 10 minutes véritablement d'échange avec les journalistes, parce qu'il y a toujours un petit laïus au début. Hein.
On dirait que son entourage voulait le protéger. C'est moi qui dis ça, là, mais...
Ben, disons que
moi,
les dernières fois qu'il a pris la parole, bon, ça lui est arrivé de se mettre les pieds dans les plats.
C'est ça.
Et peut-être un élément intéressant, hier, il rencontrait justement son ministre Pierre Dufault, son ministre des Forêts, de passage en Abitibi. Et puis, juste avant de le quitter... Il lui a donné un bon coup sur l'épaule en lui disant « Il reste juste 4 jours. » Ben, ouais. C'est ça. On sent encore l'état d'esprit de M. Legault. Il a très, très hâte, visiblement, que cette campagne se termine.
Tout à l'heure, en entrant au restaurant, on sentait l'exaspération de son épouse hein, qui nous a regardé à dire « Ah, là, je suis tanné, là. »
Oui, j'en peux plus.
Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Non, c'est vrai que c'est des vrais marathons, des ultra-marathons, les campagnes électorales pour les chefs. On a appris des choses ce matin. Peut-être que ça a été une confirmation, mais en tout cas, parce que je dis on a appris des choses, mais Christian Dubé, c'est à peu près le seul qui peut être certain de conserver son poste de ministre si jamais la CAQ est reportée au pouvoir, ce qui est très probable.
Ben, en tout cas, le premier ministre a été catégorique ce matin. Ce n'est que lui qui est garanti au poste de ministre de la Santé. Pourtant, il y a 10 jours à peine, je te rappelle, Antoine, qu'il parlait de son trio économique. Donc,
oui.
Éric Girard aux finances, Sonia Lebel au Trésor, ainsi que Pierre Fitzgibbon à l'économie. Que ça, c'était le trio, la Dream Team. Hein? Mm-hmm. Je sais que tu n'aimes pas ça qu'on emploie mots en...
C'est le sien. Comme ça qu'il l'avait présenté.
Exactement.
Ah, alors, c'est lui qui l'a utilisé.
Donc, voilà, j'ai le droit de l'utiliser. Et donc, parce que selon lui, la question de l'urne, c'est qui est la meilleure équipe? Qui a la meilleure équipe pour gouverner le Québec?
Oui.
Mais bon, donc là, finalement, ils ne parlent plus. Ils ne sont plus garantis, en tout cas. On comprend que Mme...
Leur sort est incertain.
Leur sort est incertain. Alors qu'il l'était plutôt certain, là, 10 jours, là, à 3 jours du scrutin, là, maintenant, leur sort est incertain.
J'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre aux finances qu'Éric Girard.
Oui, mais... et Pierre Fitzgibbon, probablement, à l'économie aussi. Oui, on a beaucoup de mal à s'imaginer ailleurs. Mais peut-être que Sonia Lebel, elle... n'est pas si intéressé à rester au Trésor. Je lance ça comme ça. Là.
Mais la question a été posée à M. Legault et il n'a pas voulu répondre sur Sonia Lebel. Hein? Il n'a pas voulu la confirmer non plus.
Non, exactement.
Mais tu penses qu'elle-même est peut-être intéressée à relever d'autres défis, comme on dit?
Bien, je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé, Antoine. Okay. Alors, ce n'est que de la spéculation.
OK, OK.
Mais j'imagine que les deux autres sont tellement certains à ces endroits-là. En tout cas, Éric Girard, c'est ça, comme tu disais, on le voit vraiment mal ailleurs. Et Pierre Fitzgibbon aussi. J'imagine que celle qui pourrait peut-être être intéressée par un autre poste, c'est peut-être Sonia Lebel, qui est au Trésor. On reste un peu plus dans l'ombre quand on est président du Conseil du Trésor. Mmh. Hein? Bon, c'est nous qui avons les cordons de la bourse, si on veut, là. Mais je veux dire, médiatiquement et tout ça est un peu plus dans l'ombre, alors que Sonia Lebel, qui est une ministre...
Instagram.
Oui, exactement.
Écoute, c'est une Instagrammeuse un peu compulsive.
Oui, puis les journalistes, nous, on le sait, c'est quelqu'un qui est très habile à s'exprimer sur plusieurs sujets. Donc, je l'imagine bien vouloir peut-être avoir un nouveau défi.
Sauf sur la Constitution, si tu me permets. J'avais fait une entrevue un peu serrée avec elle. Je n'avais pas trouvé que... En tout cas, c'est mon opinion. Et il faut parler aussi du projet de M. Legault. Tu as posé une question qui m'a semblé excellente, qui revenait à dire, quel est votre projet, M. Legault? Puis, il nous a parlé de son projet de loi numéro 1, c'est souvent ça dans les... quand on est en campagne électorale, c'est souvent ça quand on est en campagne électorale, on promet un projet de loi phare qui va être le projet de loi numéro 1. On se souvient de M. Legault qui disait que depuis 2012, c'était son premier projet de loi, ça serait sur l'éthique et contre la corruption. Il l'a fait quand il est arrivé en 2018.
Oui, c'était la nomination là, donc des commissaires de l'UPAC, des PCP, tout ça. Il voulait absolument changer ça. Même la laïcité, pour lui, c'était très important dès le début de son mandat. Et là... En tout cas, je lui ai demandé, donc, finalement, mais qu'est-ce que là, vous demandez un mandat, un autre 4 ans aux Québécois, pourquoi, pour faire quoi? Sa réponse est assez surprenante, quand même. Donc, d'abord, il nous a répété que le premier projet de loi qu'il allait déposer, c'est pour limiter les tarifs gouvernementaux à 3 %. Ça, on le savait pas mal déjà. Ouais. Mais tu sais, et moi, de répondre, moi, mais ça, c'est pas un projet de société, là.
On peut-être l'écouter, d'ailleurs.
Oui. Là, vous demandez un mandat aux Québécois, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire?
D'abord, on l'a déjà dit, là, malheureusement, ça n'a pas été beaucoup repris. Le projet de loi numéro 1, si on est élu, ça va être pour réglementer les tarifs. Actuellement, là, la question de l'urne, je le répète, là, c'est qui a la meilleure équipe pour gouverner? Puis moi, j'invite les Québécois à faire l'exercice. Parce qu'il y a 5 chefs, mais il y a 5 équipes. Demandez-vous demain matin qui serait ministre des Finances, qui serait ministre de la Santé, qui a la meilleure équipe pour gouverner.
C'est un projet de société, un projet de loi pour limiter les tarifs.
Oui, mais c'est du court terme. À moyen terme, ça prend une équipe en économie qui est solide pour transformer l'économie du Québec en économie verte. C'est pas rien. Pour rendre le réseau de la santé plus efficace, c'est pas rien. On n'aura pas trop de 4 ans pour travailler là-dessus.
Tu l'as relancé, Geneviève.
Oui, exactement. Puis, mais c'est ça, sa réponse est quand même surprenante. Mais donc, on comprend qu'il y a besoin quand même de 4 ans pour transformer l'économie du Québec en économie verte, puis rendre le réseau de la santé plus efficace. C'est les deux choses qu'il souhaite réaliser dans son mandat. Et c'est pourquoi il demande aux Québécois de le réélire encore pour 4 ans. Là.
On est dans les derniers jours de la campagne électorale, Geneviève. Et puis demain, samedi, il va y avoir quand même... un événement qui pourrait être important, c'est le départ de tous ces convois-là, des convois dehors la CAQ. qui s'organisent au Québec?
Oui, on sait qu'il y a à peu près donc 25 convois qui vont partir d'un peu partout au Québec pour se rendre vers l'Assomption, c'est-à-dire la circonscription du premier ministre, pour manifester leur mécontentement. Oui, ça sera peut-être un événement important, effectivement, de cette campagne-là. Moi, j'ai hâte de voir aussi la réaction des électeurs.
Ouais.
Parce que, bon, on sait que ce sont beaucoup des gens qui soutiennent un peu le Parti conservateur, en grande partie. Donc, mais j'ai hâte de voir dans la population
comment... C'est la nébuleuse anti-vax, anti-mesures sanitaires.
Exactement. Donc, est-ce que les gens... Comment ça va être perçu par la population et quelle ampleur ça va prendre?
Ouais.
Est-ce que ça va paralyser? Parce que quand on entend qu'on voit, là, on se rappelle ce qui s'est passé à Ottawa. Hein?
Oui.
Bon, je ne sais pas.
En tout cas, j'ai posé la question, moi, à M. Legault. On peut peut-être écouter la réponse.
Oui, bien, écoutez, moi, je pense que ils ont le droit d'exprimer leur opinion, mais il faut que ça se règle, faut que ça se fasse sans violence, sans intimidation, là. Les gens sont un petit peu inquiets à l'Assomption, dans mon comté, donc que ça se fasse dans les règles.
Est-ce qu'Éric Duhaime a été correct en disant il faut pas manifester de façon écervelée?
Ben,
est-ce que c'est suffisant?
Ben, écoutez, c'est une bonne chose là, qu'il ait dit ça, là, que faut pas le faire d'une façon écervelée. On a le droit d'exprimer une opinion, mais faut pas intimider personne.
Donc les gens sont un petit peu inquiets. Il l'a admis, M. Oui. Legault, que les gens sont un petit peu inquiets dans son comté, mais il a quand même salué. Ça, c'est la première fois qu'il le fait dans la campagne, qui a salué l'appel au calme d'Éric Duhaime. Alors, le premier ministre, ben, il dit que les gens ont droit à leur opinion, mais qui doivent le faire sans violence puis sans intimidation. Alors là, c'est son message aujourd'hui là, aux gens qui se rendront dans sa circonscription demain soir.
Parce que dans la campagne, Geneviève, il y a quand même eu des épisodes qui faisaient craindre le pire pour ce samedi-là. Là, on pense, par exemple, à ce qui s'est passé dans Arthabaska autour de la résidence du whip du gouvernement, Éric Lefebvre.
Oui, mais de ce qu'on comprend, il y a eu quand même des appels au calme, justement parce qu'ils ont eu très mauvaise presse après cette histoire-là. Donc, j'imagine que les gens vont essayer justement que ça ne tourne pas comme ce fut le cas avec le député d'Arthabaska.
Même Éric Duhaime a dit que ça pourrait nous nuire si vous faites les écerveler.
Exactement.
Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Geneviève.
Ça fait un plaisir.
Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Cube Radio.